RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI et comme chaque jour. Et nous allons vous parler donc de football avec une nouvelle scène de racisme dans le championnat italien. Hier soir, Moïse Kean, le buteur, Blaise Matuidi et Alessandro ont été moqués par des supporters de Cagliari. Mais l'arbitre n'a pas arrêté le match. Bonucci a plutôt taclé ses camarades alors qu'Allegri les défendait. Comment l'Italie peut-elle faire taire ces insultes racistes? Bien sûr, nous irons en Italie pour rejoindre Matteo Cioffi. Le Stade Rennais en finale de la Coupe de France. Les joueurs du club breton ont éliminé hier l'Olympique Lyonnais dans son propre stade, devant son public. Un coup de massue pour l'OL et pour ses dirigeants Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio, qui laissent planer un gros doute sur le futur entraîneur de Lyon. Psychodrame en fin de match. Deux joueurs africains dans le sous-marin jaune de Villarreal, l'équipe de Liga qui hier a tenu en échec le Barça de Messi et Suarez. Le Nigérian Samuel Chukwueze, je pense que ça se dit comme ça, et le Camerounais Toko Ekambi. Nous en parlerons dans Radio Foot avec votre aide, Hervé Penaud, bonjour.
Bonjour à vous, avec plaisir.
Vous prononcez ça comment, vous?
On vous verra, je dirai tout à l'heure.
Il se réserve, Hervé. Étienne Moati, autre camarade de l'équipe, bonjour.
Bonjour. Et Penaud, ça se dit comme ça, oui?
Penaud, avec un T.
D'accord.
Et moi, Thierry, avec deux T. Nabil Djalit, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bon, je compte sur vous aussi pour les prononciations, mais avec mon...
Bah, Hervé, ça se passe là, bien. C'est un africaniste, on compte évidemment sur lui.
Ah, un africaniste, il y en a plusieurs ici.
Chukwueze.
Chukwueze, bon, voilà. Il fait ça avec le style. Mm. Eric Mamrud, bonjour.
Bonjour. Hola. Que dalle, avec un seul H. Déjà, c'est compliqué comme ça.
Et Annie Gasnier, avec un S Radio, c'est parti.
Dizemos não ao racismo.
Nein zum Rassismus.
Nee til Rassismus.
Nee der Rassismus.
No to racism.
No al racismo.
Non, non, je... Et moi j'ai rien contre les singes. C'est pas une insulte que quelqu'un me dise que je suis un singe. C'est la façon méprisante avec laquelle il le dit qui est une insulte. Comme pour dire, tu es un animal. Les singes sont certainement bien mieux que ces gens-là. C'est sûr à 100% qu'un singe est plus intelligent qu'eux.
Vous avez reconnu qui parlait, messieurs?
Oui, on s'en souvient. Ouais. Mario Balotelli.
Moi, je reconnais sa voix, effectivement.
Exactement. Et son humour aussi, un peu décalé. Lui qui peut sans doute le permettre et qui avait dit, qui avait fait sa déclaration dans le documentaire qui s'appelait Je ne suis pas un singe. On avait reçu Olivier Dacour, l'ancien joueur qui travaille désormais pour Canal+, et qui nous avait beaucoup parlé de ce documentaire. Et bien justement, des cris de singe, des insultes. Hier soir en Italie, lors d'un match de championnat, une de ces tristes scènes, tristes et répétitive, qui s'est produite au cours du match Cagliari-Juventus-Turin dans ce stade du sud de la Sardaigne. Trois des joueurs de la vieille dame, le jeune international italien Moïse Kean, le champion du monde français Blaise Matuidi et puis le brésilien Alessandro ont été l'objet d'insupportables insultes. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors Matteo, hier vous étiez avec nous, on avait beaucoup parlé de Moïse Kean justement dans cette émission, notamment avec Habib Bey, Patrick Juillard, et on évoquait le fait que Moïse Kean, jeune prodige tant du côté de la Juve que de la Nationale, et n'avait pas encore, contrairement à Mario Balotelli, parce qu'on les comparait un peu, été la cible d'insultes. Désormais ce joueur l'a été. Est-ce que on peut dire que c'est une fois de plus et dans un stade italien, peut-être en Sardaigne où c'était peut-être prévisible?
Bah, écoutez Annie, malheureusement, on se retrouve encore une fois à discuter de quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec le football, mais qui dans cette discipline fait trop souvent la une, car le racisme dans ce sport trouve tristement terrain fertile. C'est consternant et ça abîme l'image du calcio qui n'arrive vraiment pas à se défaire de cette tâche qui est une honte. C'est vraiment une honte. Et pourtant, ces gestes-là, on les voit dans beaucoup de stades du pays. J'oserais même dire dans les mêmes stades, c'est toujours les mêmes stades, comme celui de Cagliari, où les ultras locaux, on les connaît bien. L'année passée, ils ont été pris à Franck-Essi de l'AC Milan. Et l'année précédente, ce fut autour du Nigérien Salih Muntari.
Et même Blaise Matuidi, déjà dans ce même stade de Cagliari en janvier 2018.
Exactement, exactement. Mais vous vous rappelez, il y a deux ans, c'était Salih Muntari qui, à 30 minutes de la fin, avait décidé de quitter le terrain à cause d'insultes racistes. Et les joueurs, pour cela, avaient même reçu une amende. Donc, Cagliari. Ouais, il avait été sanctionné. Donc, c'est toujours un peu dans les mêmes milieux que ces choses-là arrivent. On a des caméras. Et moi, je la pense comme Monsieur Allegri. Pourquoi on les utilise pas? On sait très bien qui sont ces gens-là. Pourquoi on ne les filme pas? Parce que c'est juste de filmer des belles femmes dans les tribunes. Mais il faut utiliser les caméras aussi pour arrêter ces idiots.
On va y venir, Mathéo, à cela. Mais pour l'instant, sur les faits, Étienne Moati, on n'a pas d'autre mot, consternant.
Oui, c'est évidemment consternant, mais ça a été dit, c'est surtout répétitif. Répétitif un peu partout, mais répétitif surtout en Italie, où il y a donc saison après saison, donc une répétition donc d'actes racistes, et ce scandale donc perdure. Donc le football italien en prend pas du tout la mesure, mais pas du tout. Il y a quoi comme sanctions? Très peu de sanctions, des sanctions financières faibles, parfois donc des fermetures partielles de tribunes. Il y a eu quelques huis clos, finalement assez rares.
Alors qu'il y a l'Inter de Milan, là, effectivement, il y a eu le cas Koulibaly fin décembre. Stade San Siro a été suspendu pour deux matchs, huis clos.
Donc je pense qu'il serait souhaitable en Italie de passer à la vitesse supérieure, et donc il y a des peines qui sont prévues par la FIFA et par l'UEFA, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui existe. L'arbitre, en cas d'insulte raciste dans un stade, doit arrêter d'abord une première fois la rencontre. Il y a une annonce qui est faite au micro, il faut reprendre la rencontre. Si jamais ça continue, il peut y avoir le match interrompu définitivement et match perdu pour l'équipe qui reçoit. Alors je sais pas s'il faut en arriver là, mais moi personnellement, en tout cas, je pense qu'il faut réagir plus fortement.
Hier, on a vu des joueurs gesticuler, on a vu des joueurs râler, et c'est le cas de Blaise Matuidi.
Oui, tout à
mais
fait.
Le match a été arrêté quelques secondes, en fait, oui, le temps qu'il se calme, c'est ça.
De toute façon, il y a un moment,
c'est
comme
la procédure.
Comme l'a dit Étienne, il y a un moment, face à une telle bêtise, face à la haine, il faut des mesures radicales, des mesures qui frappent les esprits. Donc c'est récurrent, c'est des débats qu'on a, comme l'a dit Mathéo, chaque année, avec des cas bien identifiés. Et puis s'il se passe rien, bah, l'année prochaine, on va se retrouver là ensemble, et puis on aura toujours les mêmes types de discours et les mêmes types de condamnations. C'est vrai que l'Italie n'a absolument pas le monopole de la bêtise et de la haine, mais force est de constater que c'est quand même chronique. Ça entache évidemment l'image du calcio. C'est un calcio qui était pourtant en train de retrouver un peu ses lettres de noblesse avec l'arrivée d'un Ronaldo en termes d'image, mais aujourd'hui vous êtes toujours rattrapé par ce genre de situation et de configuration. Bah, je pense que vous parliez de la Ligue italienne. La Ligue italienne, apparemment, elle fait pas le boulot, ou la Fédération italienne, elle fait pas le boulot. Bah, moi, j'en appelle à la FIFA. Alors, c'est sympa de faire des clips vidéo avec des stars, dites non au racisme. Je veux dire, bon, ça, c'est du marketing, c'est du packaging. Je veux dire, à un moment,
Mais ils ont dissous la commission qui luttait contre le racisme. Vous vous en souvenez, Gianni Infantino se justifiait très bien, d'ailleurs.
Ah bah, il faudrait peut-être les dissoudre eux, parce que, franchement, c'est quand même d'une bêtise sans nom, ça aussi.
Hervé.
Oui, mais Infantino, il faut dire qu'il n'avait pas une bourde près. Hein,
non. Mais dans le documentaire d'Olivier Dacour, d'ailleurs, il était assez consternant.
Hein. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais non, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je pense qu'il faut aller là où ça fait mal. C'est-à-dire,
portefeuille?
Non. Parce que le portefeuille, c'est une chose. Là,
on va y
si vous mettez des méga amendes, évidemment,
ça
peut toujours faire mal à certains clubs, mais ce sont les points. De toute façon, la seule chose qui fait peur à un club, c'est de perdre des points. Si à Cagliari, il y a 4-5 fois, ça s'est reproduit. Mmh. Encore, là, on parle que des cas importants. Ça a dû se passer avec des petits clubs, quand vous avez à Cagliari, Empoli, avec un joueur
division amateur également.
Exactement. Là, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Là, on en parle parce que Moise Kean, c'est quand même la nouvelle star du football italien. Et en plus, il y a la réaction de Bonucci. Et là, c'est là où
on
en reparlera après. Donc aujourd'hui, pour moi, la seule solution, c'est d'enlever des points au club.
Eric.
Je voulais poser une question à Matteo. Il me semble quand même qu'en Italie...
Pas moi, je pensais que c'est à moi.
Oui.
pas à Matteo.
Ces derniers mois, enfin d'année dernière, au niveau de la fédération, on a durci un peu la réglementation concernant les comportements racistes.
Oui, durci peut-être, Eric, c'est un gros mot, parce que vous venez de l'expliquer, la Fédération italienne de football, en janvier à voter des mesures pour lutter contre le racisme. Un premier appel, et l'arbitre dit aux joueurs d'aller au milieu de terrain et de s'arrêter. S'il y a un deuxième appel dans le même match, allez, tout le monde dans les vestiaires. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Rien, parce que c'est pas l'arbitre qui décide si le match doit continuer ou pas, mais plutôt c'est le responsable de l'ordre public. Et là, on ouvre un autre chapitre. Comment le responsable de l'ordre public peut assurer la sûreté de, je sais pas, 80 000 personnes s'il arrête un match? C'est vraiment très, très, très difficile de gérer cette situation, à mon avis. Et hier aussi.
Oui, justement, Mathéo, quels sont aujourd'hui les commentaires que l'on peut lire ou qu'on l'on peut entendre en Italie à la suite de cette soirée à Cagliari?
Je commence tout d'abord par dire que la politique et les politiciens n'ont rien déclaré pour l'instant, on les attend encore. Mais il y a eu vraiment un très grand geste de solidarité de la part des joueurs qui ont utilisé leur compte sur les réseaux sociaux. Mario Balotelli, bien entendu, a publié une photo où on voit Kean et Matuidi sourire. Et l'attaquant de l'OM a accompagné cette image avec un message qui dit « Même si on est divisé dans le destin, rien d'autre ne pourra nous séparer. Je condamne le racisme dans toutes ses formes et toujours. » Blaise Matuidi, de sa part, a lancé le slogan « Bianco plus Neri », Bianco Neri, pas mal comme jeu de mots, accompagné par l'hashtag « Not Racism », on vient de l'entendre. Et comme image, il a publié celle de Moise Kean avec les bras ouverts après le but de hier soir.
Mais la presse, Mathéo, les commentateurs au moins sportifs, c'est comme d'habitude, ils disent pas plus que « bon ben voilà, ça s'est passé, c'est lamentable ».
Non, la presse a bien entendu condamné ce qui s'est passé, oui. Et a rappelé encore une fois qu'il faut absolument pas s'habituer à ces choses-là, car sinon le calcio risque vraiment de perdre son match le plus important. On le souligne encore.
Noël Legrette en France, le président de la Fédération française, a tenu, lui, à condamner des insultes racistes inacceptables. Et pas seulement parce que c'est Matuidi, il cite aussi Moise Kean. Paul Pogba, lui, lance un appel en disant « Bons Italiens, réveillez-vous, ne laissez pas un petit groupe raciste parler en votre nom ». Mais venons-en justement, Mathéo, et on va l'entendre à cette fausse note, on peut dire peut-être, de la part de Leonardo Bonucci, qui joue aussi à la Juventus et qui a, attribué à son coéquipier, le buteur du soir, Moise Kean, eh bien, une part des responsabilités des insultes reçues. Écoutons-le.
On a entendu des hurlements racistes sur le but de Kean qui ont provoqué la réaction de Blaise Matuidi. Il était très remonté. Je crois que la faute est un 50-50, elle appartient aux supporters mais aussi à Kean. Cela dit, il ne faut jamais oublier que nous les joueurs, on doit être un exemple et aller de l'avant pour faire en sorte que le calcio puisse résoudre ce problème.
Matteo, c'est une déclaration pour le moins surprenante, non, de la part de Bonucci?
Oui, mais il faut quand même penser que c'était à chaud. Le match était juste terminé. Il n'a pas vraiment réfléchi à ses mots. Et c'est pourquoi une partie de l'opinion publique italienne ce matin affirmait que Bonucci s'est mal exprimé. Je suis partiellement d'accord. Je crois qu'il voulait dire autre chose. Quelque chose comme « Devant ces gestes idiots, il faut faire semblant de rien ». Il a donc mal géré ses mots en partie. Et bon, je répète, à mon avis, le défenseur a peut-être raison, car il ne faut pas donner de l'importance à une douzaine de racistes. Mais où est-il écrit que le racisme n'a pas droit à une réaction?
Oui, exactement. Étienne Moati, c'est quand même et surprenant la réaction de Bonucci, et puis ne pas réagir. C'est presque ce qu'on leur reproche, malheureusement, de devoir se conformer aux joueurs de couleur.
Absolument. Et si c'est l'idée de Bonucci, c'est évidemment une très mauvaise idée, donc d'essayer de minimiser ce qui s'est passé et d'essayer de passer assez rapidement à autre chose. C'est justement ce qu'est en train de faire Blaise Matuidi aujourd'hui. Donc il s'arrête à chaque fois qu'il y a un incident, le plus minime soit. Et il est en train d'avoir une grande importance, je pense, Blaise Matuidi, dans ce dossier, en tout cas évidemment en Italie, parce que il va voir l'arbitre, même quand l'arbitre essaye un peu d'ignorer, fait un peu semblant de ne s'être aperçu de rien, c'est arrivé dans d'autres matchs, là il était extrêmement présent. Il faut évidemment, même si c'est 10 supporters, il faut pas faire comme si rien ne s'était passé, et c'est l'attitude exactement inverse qu'il faut avoir.
En plus,
Hervé.
Mais je ne sais pas s'il s'est excusé ou en tout cas a repris ses propos, Matteo. Est-ce qu'on l'a vu tweeter quelque chose, Bonucci, ou dire quelque chose en plus? Parce que sur le coup de l'émotion, c'est une chose. Mais à un moment, on peut réfléchir et on peut pas dire, on peut pas mettre au même niveau la personne qui a insulté et qui fait des cris de singe ou je sais pas trop quoi. Et le joueur qui reçoit ça, mais c'est totalement invraisemblable. Moi, j'espère que Moïskine et que Matuidi sont allés le voir. Il lui dit, mais t'es complètement timbré, mon gars. C'est qu'à un moment, tu peux pas dire des choses pareilles. C'est inadmissible. Et ce que j'aurais aimé, c'est que si c'est des excuses parce qu'il estime qu'il aurait été mal compris, en tout cas, revenir sur sa pensée pour dire, non, ce que je voulais dire, voilà, s'expliquer au moins.
Et Matteo, il en a reparlé, non?
Bah, écoutez, ça vient de sortir il y a tout juste quelques minutes. Il a fait une déclaration à l'agence de presse où il dit qu'il est totalement contre le racisme. Mais on le sait, Leonardo Bonucci n'est absolument pas raciste, je crois pas. Il a seulement géré mal ses mots. Oui. Il a voulu lancer de l'eau sur le feu, mais il s'est pas aperçu que c'était de l'essence, hein. Donc, voilà.
L'entraîneur de cette équipe des Bianconeri, écoutons-le, Massimiliano Allegri, parce que comme Carlo Ancelotti, quelques mois auparavant, c'était en décembre, si je me trompe pas, quand Kalidou Koulibaly avait été insulté, le joueur de Naples, l'international, il était monté au créneau pour défendre son joueur. Et là, Ancelotti monte au créneau et propose une solution.
La solution est là.
Nous avons les outils pour arrêter ces insultes racistes. Nous avons des caméras que nous pouvons utiliser pour attraper les personnes qui font cela. C'est simple, il faut des règles drastiques. Ces personnes devraient être interdites de stade à vie. Pas seulement pour un mois ou un an. Tu fais une erreur et tu dois payer point final.
Massimiliano, donc Allegri, l'entraîneur de cette équipe. Matteo, lui, il dit il faut exclure les gens et à vie. Eric Mamrut, il faisait allusion à l'Inter de Milan, par exemple. C'est vrai que c'est un club qui a pris le taureau par les cornes et qui a pris des décisions.
Oui, une très belle décision qui est un peu, marqué cette saison. C'était le 19 janvier dernier, après les insultes à Koulibaly. Le virage nord des ultra-interistes avait été fermé et le club avait décidé d'y faire asseoir à leur place presque 10 000 enfants. Et ce jour-là, l'Inter affrontait Sassuolo et pour cette occasion, les tribunes de San Siro avaient été revêties avec des centaines de banderoles contre le racisme, une opération très belle, appréciée par tous, mais surtout avec un objectif prioritaire, c'est-à-dire faire comprendre aux nouvelles générations que le racisme est simplement quelque chose d'insensé et de bête, parce qu'il faut commencer avec les jeunes,
oui.
les gamins,
évidemment,
à partir de là.
Les former, on va dire. Écoutons aussi Samuel Eto'o, dans le documentaire d'Olivier Dacot, lui, Allegri dit qu'il faut exclure c'est ceux qui insultent à vie. Eh bien, écoutons quelle solution lui préconisait.
Beaucoup de gens vont perdre l'argent. Et quand tu touches déjà la poche de quelqu'un, je vais te dire, il va trouver des solutions. En premier, les télés. Et tu verras que ces patrons-là mettront la pression à ces instances qui dirigent le football mondial. Et beaucoup de choses vont changer.
Hervé, c'est pas tout à fait ce que vous préconisez, mais est-ce que vous pensez que, par exemple, si on décide d'ignorer la Serie A sous prétexte, enfin, avec justement cette explication que on ne veut pas, par exemple, parler du match d'hier, même pas s'intéresser aux résultats, ça peut.
Mais malheureusement, les joueurs sont payés grâce à l'argent télé aussi. Donc, s'il n'y a plus de télé qui s'intéresse à ces matchs-là, eux-mêmes ne seront pas payés comme ils le sont. Samuel Eto'o en premier. Donc, évidemment qu'on peut avoir des actions comme ça. Moi, j'aime bien l'idée d'arrêter un match. Hein. Je vois pas pourquoi des joueurs à un
Exactement.
Moment et puis c'est pas une
mais
histoire.
Mais ils ont le droit, ils le font pas, les arbitres.
Non, les arbitres, même les joueurs, non, les joueurs par eux-mêmes, à un moment, montrer...
Il a bien dit, Matteo, c'est le représentant de l'ordre public qui doit prendre la décision, en Italie, d'arrêter ou non.
C'est pas simplement le représentant de l'ordre public, c'est avec l'arbitre. L'arbitre doit venir consulter le représentant de l'ordre public, et c'est ensuite l'arbitre qui a le pouvoir et l'autorité pour décider d'arrêter ou ne pas arrêter un match, le reprendre ou ne pas le reprendre.
Non, parce que l'histoire là, des 10, on parle de 10 supporters, ouais. 20, 50, déjà, on peut effectivement les exfiltrer aujourd'hui avec les caméras vidéo dans plein de stades. Alors, je sais bien que certains stades italiens sont un peu vétustes, mais enfin, il y a quand même possibilité à peu près de savoir qui c'est, et puis de les interdire de stade. Enfin, j'espère, je connais pas la loi italienne. Mais surtout, c'est que si vous arrêtez un match, ça va faire quand même un impact incroyable. Il y a des joueurs qui ont quitté le terrain. et d'un seul coup ça fait quand même du bruit. Ça fait du bruit. Mais c'est, alors là c'est scandaleux. Par contre la réaction avait été totalement incroyable. Ouais. Mais surtout je crois que si vous perdez des points, là d'un seul coup les clubs ils ont plus simplement des beaux discours en mettant trois banderoles dans un stade en disant non au racisme. Mais quand vous enlevez trois points et que vous descendez en fin de saison pour deux points, ben, je peux vous dire que là ça va les toucher beaucoup plus que ça. Et là d'un seul coup le problème d'éducation avec les supporters va devenir prioritaire.
Oui, tant que vous ne taperez pas fort, il se passera rien.
Oui.
On l'a vu avec le hooliganisme. À partir du moment où l'Angleterre a été touchée de manière récurrente et où un gouvernement, en l'occurrence celui de Margaret Thatcher, a décidé de s'en occuper de manière assez forte, et qu'ensuite il y a eu des sanctions au niveau européen avec des exclusions de Coupe d'Europe. Alors je dis pas qu'il faut faire ça avec l'Italie aujourd'hui. Évidemment, donc on voit aujourd'hui qu'en Angleterre, le hooliganisme a quasiment été réglé. Ce problème a quasiment été réglé. Donc si aujourd'hui en Italie et ailleurs d'ailleurs, parce que là on parle de l'Italie, parce que le cas s'est passé dans le Calcio, mais il n'y a pas que l'Italie qui est concernée. Non. Si vous n'avez pas une réponse très forte, il ne se passera rien. Moi, depuis que je suis le football, il y a aussi la stratégie de dire bon voilà, ce sont des cas isolés, ce sont des minorités, il ne faut pas donner plus d'importance que ça, et on est encore en train d'en parler aujourd'hui.
Après, il y a aussi contexte, le football n'est pas à l'écart du reste de la société, et en Italie encore plus. On sait également qu'en ce moment, il y a des flux migratoires qui ont fait monter les extrêmes en Italie, donc il y a quand même un climat qui, à ce niveau-là, qui est détérioré et qui s'est encore détérioré. Et puis après, il y a un système de croyance et de représentation aussi, un passé, une charge coloniale qui est peut-être différente, une vision qui est différente. Moi, je suis curieux, je vous le dis très sincèrement, Annie, je pense que les Italiens adorent le foot et de voir Keane, à mon avis, ça les fascine plus que qu'autre chose, mais je suis curieux de savoir, et la réaction peut-être de certains, si demain vous avez l'attaque de l'équipe d'Italie, Keane plus Balotelli par exemple, je pose la question naïvement. Je pense que si ici chez nous, en France, c'est quelque chose qui est normal, peut-être que l'histoire d'autres pays fait que les réactions, malheureusement pour l'instant, ou certaines mentalités, ne sont pas encore en adéquation avec le monde globalisé dans lequel on vit.
Mathéo, pour conclure.
Parce qu'à mon avis, la solution est celle de fermer les stades. Parce que si je suis un abonné, je paye pour aller voir mon équipe, je ne peux pas y aller parce qu'il y a des idiots qui font les idiots. Là, je m'énerve, je m'embête, la chose m'embête énormément. Donc, c'est là, il faut toucher, il faut bloquer les virages ou les endroits du stade où on entend ces cris-là. Il faut les fermer. Oui. Moi, j'ai payé pour une place et je ne peux pas avoir droit à regarder le match.
Le spectacle.
Ça m'embête.
Mais après soyons directs, Annie, si ça se reproduit, par exemple, c'est la Juve. C'est terrible ce que je vais dire, mais si c'est Cristiano Ronaldo qui quitte le terrain.
Vous avez l'impact, c'est ça aussi le problème, c'est que les camarades, des leaders,
je suis pas en train de lui dire de le faire, ni de lui faire porter une telle responsabilité.
Il écoute l'émission.
Mais parfois, vous savez, il faut des volontés un peu hors du commun pour aussi faire avancer les choses. Demain, si c'est Ronaldo ou Messi qui quitte le terrain, je vous annonce que c'est plus la même. Et la FIFA, c'est un gros business aussi, elle réagira pas de la même manière.
Merci beaucoup Matteo Cioffi, et espérons qu'on ne vous rappellera pas pour ce genre d'histoire, mais pour parler simplement de ballon rond. Merci beaucoup, ciao.
Merci à vous, au revoir.
Attention, il a hésité à Rami Batsebaïdi. Il s'en rend Bourigeaud tout seul. Ah, le talon, Batsebaïdi, la frappe. Et le but de Rami Batsebaïdi. 3-2 pour Rennes.
Et un match fou.
C'en est terminé. Rennes est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Rennes s'impose 3-2 ici à Lyon. Quel exploit.
Et vive la Bretagne! Il y aura donc des biniou au Stade de France lors de la finale de la Coupe de France, car le Stade Rennais est finaliste de la compétition plus que traditionnelle et plus que centenaire du football français. Hier soir, contre vents et marées, contre un adversaire mieux classé, contre la majorité du public, qui était évidemment pour Lyon, qui jouait en plus à domicile, contre certaines décisions arbitrales, on va y venir. Rennes a donc battu Lyon par 3-2. Un match au scénario un peu fou et au bout, eh bien, le privilège de disputer donc cette finale. Alors, on ne sait pas encore contre qui, peut-être contre d'autres Bretons, si tant est que les Nantais soient Bretons, ça c'est un autre débat.
Ils sont Bretons.
Ou le Paris Saint-Germain. En tout cas, les joueurs de Rennes qui s'étaient inclinés quelques jours avant face à l'OL ont été à la hauteur. Et l'entraîneur des Rennais, Julien Stéphan, heureux de l'exploit de son équipe.
J'ai le sentiment qu'il y a un regard qui est en train de changer par rapport à ce club, par rapport aux prestations que font les joueurs, par rapport à l'ambition aussi qui est naissante et qui est grandissante au fur et à mesure des semaines et des mois. Et puis au fait aussi qu'on soit capable d'assumer et de faire des grandes performances et même des exploits, puisque avoir battu Arsenal chez nous, c'était un exploit. Se qualifier à Séville, c'était un exploit. Et se qualifier ce soir, c'est un grand exploit. Parce que l'équipe de Lyon, elle est très forte. Parce qu'on a joué dans un stade quasiment plein. Et parce qu'on a aussi eu des décisions contraires durant le match. Et pour toutes ces raisons, c'est une très grande performance qu'ont fait les joueurs.
Très grande performance avec un beau parcours, Eric Mamrut.
Ben, en fait, l'idée, c'est de voir ce qui s'est passé depuis l'arrivée justement de cet homme, Julien Stéphan, qu'on connaissait pas très bien, dont on va parler tout à l'heure. Il est arrivé le 4 décembre en remplacement du franco-tunisien Sabri Lamouchi. Et depuis, bah, ça va beaucoup mieux du côté de Rennes. Ils étaient 14e au classement à ce moment-là. Aujourd'hui, ils sont 9e avec un match en moins, à 5 points du 4e Saint-Etienne. Donc, pourquoi pas l'Europe est en point de mire. Et puis, ce qui est drôle, c'est de voir que Julien Stéphan, son premier match le 5 décembre, c'était contre Lyon. À Lyon, ils étaient allés s'imposer déjà 2-0. Donc là, on peut pas dire qu'ils étaient pas prévenus, les Lyonnais, même s'il y a quelques jours, ils s'étaient imposés à Rennes. Mais avec Stéphan, eh bien, bah, ça marche bien. 26 matchs pour un bilan de 16 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Il a évoqué le bon parcours en Ligue Europa, la qualification face au Betis Séville. Bon, l'élimination avec les honneurs face à Arsenal. Mais bon, ils ont quand même battu cette saison Lyon. Donc Lille en Coupe de France. Saint-Etienne, bon, ça c'est moins prestigieux, quoique. Oh bah. Et puis fait nul contre Marseille. Donc Rennes est devenu un candidat à je ne sais pas quoi, mais à quelque chose peut-être.
Nabil, est-ce que c'est un exploit de Rennes?
Ah non, c'est pas un exploit, c'est une belle performance. Je veux dire, on a vu Rennes en Ligue Europa regarder dans les yeux le Betis Séville, regarder sur séquence dans les yeux Arsenal également, même s'ils ont été à 10 contre 11 et ils ont remporté le match aller, souvenons-nous, par 3 buts à 1. Je veux dire, sur le papier, concrètement, c'est quand même une équipe avec des atouts offensifs. Moi, très sincèrement, Annie, derrière le Paris Saint-Germain et Lyon, l'équipe offensivement sur les 4-5 joueurs offensifs que je trouve la plus forte du championnat de France, c'est Rennes.
Mais je vous aviez prévu leur victoire hier à Lyon?
Non,
contre
j'ai pas
Lyon.
Prévu leur victoire à Rennes puisque j'attendais que la prolongation de Bruno Genesio, comme beaucoup. Un peu d'humour, ça fait pas de mal, mais il a été dégriffé, le Lyon, pour le coup. Mais quelque part, je veux dire, c'est pas non plus une équipe de deuxième division, loin de là. Je veux dire, elle a trouvé avec, Eric l'a dit à juste titre, avec Julien Stéphan, un certain équilibre. Elle attaque bien, voire très bien, et elle défend un peu mieux. Donc, est-ce que c'est un exploit? Pas du tout, c'est une belle performance.
Étienne?
Non, je suis
pas
d'accord.
D'exploit.
Je suis d'accord avec Nabil.
C'est Julien Stéphan, pardon, pas Guy. Ah bah, papa, c'est Julien Stéphan qui parle d'exploit.
Oui, bah lui, il prêche pour sa parole, c'est quand même assez normal. Donc, il valorise la performance de son équipe et donc à travers ça, sa propre performance depuis qu'il a repris Rennes. Et d'ailleurs, depuis qu'il a repris Rennes, ça a été dit, les résultats et le style de l'équipe ont évidemment énormément progressé. Mais je suis d'accord avec Nabil. Il y a d'abord eu une victoire, donc dès qu'il a pris l'équipe à Lyon et sur le dernier match que Rennes a joué à domicile, bon, on va dire que Lyon a quand même eu plutôt de la réussite, donc on va dire que c'était plutôt, de mon point de vue, du 50-50 puisque Lyon est une équipe qui réussit très bien contre les très grosses équipes et parfois moins bien contre des équipes un peu de son niveau.
Pourtant, Hervé, Lyon, on y viendra après sur la déroute, mais on avait l'impression que par rapport à Rennes, le fait de jouer chez eux, le fait d'être devant leur public et tout aurait pu les porter, et puis la motivation depuis 2012, zéro titre.
Oui, mais la motivation est la même chez les Rennais. Hein. Eux aussi, ils avaient à cœur de montrer qu'ils étaient capables de s'imposer là-bas. C'est vrai que c'est pas un exploit. Lyon, bon, on va discuter après Lyon. Lyon a raté quand même son match, ça, faut
alors
le dire.
Alors que là, on avait un groupe, une équipe, on a vu plus du côté de Rennes.
Ah oui, tout à fait. Et puis, ils avaient parfaitement étudié les faiblesses lyonnaises. Et puis, ils se sont engouffrés. Après, il y a eu des erreurs individuelles majeures du côté lyonnais. Bah, c'est à un moment, vous pouvez pas vous y attendre, mais c'est le fait de cette équipe lyonnaise qui, à mon avis, de toute façon, je le dis moi depuis très longtemps, je pense qu'elle est surcotée. Je pense pas que ce soit une si bonne équipe que ça.
Elle est surcotée individuellement ou elle est surcotée collectivement?
Les deux. Collectivement et individuellement. Alors, collectivement, parce qu'il y a des caractéristiques de certains joueurs qui font que c'est compliqué de jouer collectivement dans cette équipe de Lyon. Et il y a des joueurs qui ont un niveau moyen plus. Des Marcelo, des Marçal, etc. C'est des joueurs moyens. Amari Traoré, à la rigueur, comme arrière-gauche, est meilleur que Marçal. Pour moi, j'ai pas de doute. Alors, il a pas joué hier soir. Sarr, c'est aussi fort que Bertrand Traoré.
Oui.
Bah, Sarr,
oui.
Il est capable de faire des différences incroyables.
Et Ben Arfa, c'est aussi fort que
Ben Arfa. Ben Arfa, c'est
là.
Non seulement il a aussi aussi fort, mais à mon avis, il est meilleur que Fekir aujourd'hui. Parce que Fekir, c'est une immense déception. Moi, je pense que Fekir, c'est un peu le symbole de ce Lyon. Et c'est pour ça que les gens les voient grands. On a un champion du monde, on a ci, on a ça. Après, c'est la com' de là, c'est normal. Ils vont son club. Mais collectivement, c'est compliqué de jouer avec des joueurs comme ça. Vous avez un joueur très bon qui s'appelle Dembélé, qui oui. depuis quelques mois, vraiment fait.
Qui est sorti avant la fin du match.
Et qui est collectif.
C'est une erreur majeure.
Et enfin, qui est collectif.
Bon, qui fait donc, qui est très très bon. Mais le problème, c'est qu'il a besoin de passes rapides. Et vous avez Fekir qui touche une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc vous voyez, il y a des déséquilibres dans cette équipe et qui sont réglables en changeant.
Mais parlez-moi des Lyonnais, des Rennais, parce que les Rennais, par exemple, évidemment, Ismaïl Assar, Niang.
Là, les deux Sénégalais ont fait vraiment la paire hein, pour le coup. C'est qu'ils ont fait un match, un super match. Non, c'est une équipe qui est bien équilibrée, où je trouve qu'ils ont, au moment du recrutement, ils ont eu l'intelligence de choisir des joueurs qui allaient très vite. Moi, j'aime bien ce type d'équipe qui peut défendre et puis partir, se projeter en contre de manière très rapide. Mais alors, il faut accepter d'avoir comme milieu défensif des joueurs qui sont capables de vous lancer, comme Grenier, pas des purs milieu défensif, Bourigeaud sur un côté. Donc, ils ont vraiment une...
Et Benarfa aussi, quand même.
Et l'atout. Alors, atout, Grenier, atout, ça dépend des
quand
fois.
Quand il veut, quoi.
Ouais, c'est ça. Le problème avec Benarfa...
Mais quand il veut, c'est bien. C'est
d'ailleurs, hier soir, il a fait une mi-temps sur deux.
Voilà.
Ouais. Mais surtout, on avait un scénario un peu fou, Nabil, parce qu'on a... Ce sont les Rennais qui ouvrent le score. Et à chaque fois, ils ont mené au score.
Bah ouais,
ils ont mené à un moment, il y a des égalisations, et après, à chaque fois, c'est eux qui reprenaient l'initiative.
Bah ouais.
Et jusqu'au 3-2.
Bah, la faute à qui? Faut poser la question, puisque, il faut un moment mettre les pieds dans le plat, là.
On va y venir à la faute à qui, mais alors avant, on va s'arrêter sur Julien Stéphan. On voulait quand même porter un éclairage, parce qu'il est là donc depuis le 4 décembre, depuis le départ de Sabri Lamouchi. Alors, qui est-il en dehors du fils de
Voilà, le fils de Stéphan, le sélectionneur adjoint de l'équipe de France. Donc, il a 38 ans, donc c'est un jeune entraîneur. Il a été joueur, pas un grand joueur, milieu de terrain. Il n'a pas fait mieux que le niveau national, la 3e division française. Alors, peut-être qu'il a senti qu'il ne ferait pas une grande carrière. Du coup, en même temps, il a passé ses diplômes d'entraîneur. Il a même commencé à exercer avec les U19 du club de Dreux, un petit club, et puis bon, ensuite il a enchaîné,
je crois aussi qui a bloqué un peu, freiné
ensuite il a enchaîné avec d'autres équipes de jeunes, puis la réserve de Rennes à partir de 2015, où là il a fait vraiment ses preuves jusqu'à sa nomination donc en décembre dernier.
Ouais. Ça vous surprend, Étienne, que ce joueur... Alors, on se souvient de ce petit épisode où Thierry Henry l'avait voulu hein, comme adjoint. Il serait peut-être d'ailleurs encore à Monaco s'il l'avait comme adjoint. Enfin, c'est une parenthèse, bien sûr. Mais on a tout d'un coup, cet entraîneur qui a l'air d'être vraiment là où il faut.
Non, tous ceux qui l'ont...
Il est né en plus, hein.
Il est né à Rennes, oui.
Tous ceux qui l'ont côtoyé, dont je ne fais pas partie, expliquaient donc avant sa nomination que c'était pas une surprise, en fait, qu'il soit nommé, oui, un peu, mais en tout cas percevait chez lui donc un énorme potentiel, donc bien avant qu'il soit nommé. Donc de ce point de vue-là, c'est pas une surprise. Les joueurs donc qu'il a entraînés donc dans d'autres équipes et même dans des équipes de jeunes, sur les différents reportages qui ont été réalisés chez nous ou ailleurs, expliquent vraiment que tout le monde ressentait à l'intérieur des clubs qu'il y avait quelque chose donc chez Julien Stéphan, et quelque chose de plus que d'être le fils de son père. Donc évidemment, après sa réussite immédiate, il y a forcément une petite forme de surprise, parce que d'abord, on peut jamais être sûr que le potentiel se confirme une fois que vous êtes nommé. Et puis en tout cas, il a une vraie capacité sur cette équipe à la mettre en place très très vite, parce que elle a plus rien à voir avec celle du début de saison.
Et surtout, ce qui est important, je trouve, c'est qu'il a redonné une notion de plaisir. On a envie de regarder Rennes parce que ça joue au football, qu'il a des idées. Quand il va à Arsenal, certes, ils se font éliminer, mais il y va pas en verrouillant, en mettant 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et 2 attaquants, ou en jouant forcément le contre à tout va, il prône des idées. Alors, pour l'instant, ça marche, on l'en félicite, j'espère que ça va continuer dans un cycle vertueux, mais il faudra aussi voir quand il y aura un contre-coup, parce que peut-être qu'il y aura un contre-coup. Bah, et c'est
Arsenal
là aussi,
a déjà été un peu
voilà, et c'est là aussi dont on juge aussi la capacité d'entraîneur à trouver d'autres leviers pour faire repartir son équipe.
Ils ont rebondi.
Ouais, mais ce qui est intéressant, moi je le connais un peu, un petit peu.
Et il vous connaît, lui?
Oui, on se connaît un peu. Voilà. On se connaît un petit peu. Et mais c'est marrant parce que j'ai suivi Rennes, moi, un an, donc j'ai très bon rapport avec lui, parce que je trouvais que c'était quelqu'un de très intéressant, effectivement, avec qui vous pouvez beaucoup discuter jeu, football. Mais c'est marrant parce que l'année précédente, son équipe descend. L'équipe de Rennes descend. Ils ont bien compris qu'il fallait pas non plus regarder que les résultats. Ils ont vu tout le travail qui était fait. En plus, les réserves de professionnels, parfois,
sont très difficiles à gérer.
Ouais, et parce qu'ils se sont rendus compte qu'il avait quelque chose. Alors, sur le coup, ne pas être allé à Monaco, ça a été un coup dur. Faut pas se mentir.
Et ouais, puis, il a été retenu par les dirigeants.
Hein. Ah oui, les dirigeants. Pas parce qu'ils étaient sûrs de le remplacer, mais ils savaient aussi qu'entre Lamouchi et l'étang, c'était pas un amour absolu. Donc, déjà, durant l'intersaison et au moment du mercato, c'était plutôt les avis de l'étang qui avaient prévalu sur ceux de Lamouchi. Donc il était là. Il était là en renfort au cas où. Et puis dès qu'on lui a donné les clés, parce qu'il a une vraie idée du jeu, il a une vraie idée de ce qu'il veut montrer et ce qu'il veut faire.
En plus, Nabil, tout à l'heure vous disiez Rennes. Effectivement, souvent on s'interrogeait dans Radio Foot. J'ai vu que depuis 1998, donc ce club appartient à la famille Pinault, et on se demandait toujours un peu quel était le projet autour de Rennes. Chaque année, c'était très bizarre.
Le projet Newcastle, intermittent du spectacle, club avec des moyens et qui déçoit souvent, qui retombe dans une relative anonymat, impronosticable, illisible. Ils ont tenté avec Christian Gourcuff de donner une patte. Oui. L'idée en soi, d'ailleurs, Christian Gourcuff, pour rappel, est quand même parti sur 4 victoires. Oui. Hein, je veux dire. Alors, il y a eu un changement de programme, un changement de logiciel, notamment avec l'arrivée d'Olivier Létang, qui a fait notamment, et c'est une partie de la réussite, pas toute la réussite, mais quand même un recrutement plutôt ambitieux avec des paris. Ben Arfa, ça, même si c'est un joueur fantastique, ça reste un pari. Niang, ça reste un pari. Et il semble qu'avec Julien Stéphan, on trouve un peu de constance et de régularité. Mais maintenant, encore une fois, halte à la culture de l'instant. Moi, je les attends vraiment sur un cycle.
Voilà, on se demande.
Comme Nice, par exemple, quand Nice est revenu sur haut de l'affiche, ça fait plusieurs saisons.
Je ne crois pas que ce soit une culture de l'instant, parce que moi, là où il m'a aussi beaucoup impressionné et rassuré Stéphan, c'est la gestion qu'il a eue du cas Ben Arfa. Quand il y a eu un gros problème sur Ben Arfa, qu'il a raté une mise au vert, etc., ça aurait pu devenir un problème récurrent dans le club. Il a géré ça. Il a d'abord tout de suite dit donc à tout le monde ce qui s'était passé. Et c'est pas dur de faire mieux qu'au PSG de ce point de vue-là. Ouais. Il a dit très vite ce qui s'est passé. Il a sanctionné le joueur modestement et pas, il n'a pas fait une affaire énorme. Et finalement, aujourd'hui, Ben Arfa, il est revenu dans l'équipe très très vite. Et aujourd'hui, il permet aussi lui à Rennes de se qualifier pour la finale.
Rennes qui court après un titre depuis bien longtemps. Hein. Club a gagné 2 Coupes de France en 65 et en 71. Depuis, plus rien, malgré 4 finales de Coupe de France, dont récemment en 2009 et 2014, battu les deux fois par le voisin, par Guingamp. Et puis,
bon présage pour Nantes, peut-être, ça.
Qui sait. Et puis, une défaite en Coupe de la Ligue, en finale, également en 2013, battue par l'AS Saint-Etienne, mais ça, c'est plus normal.
Alors, les Bretons qui rient, les Lyonnais qui pleurent. Mon cher Hervé, vous étiez au match hier. Oui. Le ciel, on a eu vraiment la sensation que le ciel leur tombait sur la tête. Donc,
un
a priori,
peu, un petit peu tombé,
ils avaient les cartes en main et ils n'ont rien fait de ces cartes. Et notamment, on le disait tout à l'heure, les cadres.
Ah oui, tout à fait.
Alors c'est là, Anthony Lopez, je crois que c'est le seul des cadres à avoir vraiment tenu.
Je pense que c'est parti du banc, hein. Du banc qui a raté totalement son match, parce que Genesio, je pense.
Vous pensez que Depay ne pas l'avoir mis d'ouverture, c'était une erreur.
Ça, à la rigueur, c'était pas l'erreur. Bon, je pense déjà le système de départ était une erreur, mais ça, j'en avais parlé déjà avant. Et à la mi-temps, il a changé pour repasser dans un
vous
système.
Vous avez écouté.
Oui. Non. Mais il a repassé dans un système où il peut un peu bloquer les côtés, parce que sinon il était en immense difficulté, il pouvait rien faire face à la vitesse des joueurs rennais. Et puis après, c'est invraisemblable de sortir Dembélé en fin de match.
Oui.
Il a laissé Fekir, qui est l'ombre, ce que je disais, l'ombre de son ombre. Hein. C'est-à-dire que Fekir, à un moment, je comprends qu'on le fasse jouer, parce que qu'on le veuille ou non, c'est Fekir, on se dit à un
sur
moment
un
il va sortir,
patte,
voilà,
comme
il y aura l'étincelle.
Mais
à un moment, c'est fini. C'est-à-dire que quand on voit qu'il est complètement à la rue et que vous avez un joueur qui peut faire les différences sur une fin de match, il y a souvent des occasions sur des ballons dans la boîte. Il faut un joueur qui soit capable de prendre la balle de la tête. Si vous enlevez Dembélé, qui est votre meilleur joueur justement dans l'impact physique.
On l'a vu
face
au derby contre Saint-Etienne. Hein.
Absolument. Effectivement. En plus, il avait marqué comme ça. Si vous enlevez votre meilleur joueur sur ce genre de situation, mais ça me paraît invraisemblable. Donc je pense que déjà l'entraîneur a déchiré son match. Il s'est planté. Et les joueurs, parce que bien sûr, ça reste toujours les joueurs sur le terrain. Il ne faut pas rêver. Hein. Mais Marcelo, s'il veut pas dégager devant Niang, si vous voulez, vous pouvez être entraîneur, n'importe quel entraîneur. Bon, c'est pareil. Donc, Marcelo à la rue, Fekir, parce que pour moi, c'est le symbole de l'équipe, Fekir. C'est-à-dire Fekir.
C'est le pivot, c'est le capitaine, c'est tout ça, c'est le champion
et puis,
du monde.
C'est le joueur expérimenté, celui qui doit tirer l'équipe vers le haut, parce que d'autres joueurs n'ont pas été.
Et qui le fait parfois très bien.
Ah ouais, mais cette année, c'est rarement.
Et le problème,
c'est qu'il sauve ses coups par des buts. Alors, Memphis était sur le banc, mais à un moment, vous êtes obligé de gérer aussi Memphis. Et dernier point, c'est des jeunes joueurs qui doivent un peu montrer plus. Et je pense à Ndombele, qui a été une nouvelle fois ultra décevant.
Tout à fait.
Mais évidemment, tout ce que dit Hervé est vrai, mais je pense que sur les joueurs, il y a l'apathie. Moi, j'étais quand même extrêmement surpris sur la fin de match. Dans les dernières minutes, on imaginait, vu l'importance pour le club, cette qualification pour la finale, qui se jette donc dans la bataille. Et franchement, ils se pressaient même pas pour aller faire les remises en jeu. Ils venaient pas presser les Rennais qui avaient là-bas dans les dernières minutes. C'était extrêmement étonnant.
C'était sidérant.
Mais il a été humilié par ses joueurs aussi, quelque part. Je veux dire, le mot, il est un peu difficile, mais... Mais quelque part, ces joueurs, ils sont pas.
Bah oui. Mais on l'a souvent vu, hein, quand même, en fin de match, l'entraîneur aussi, Genesio, être un peu décontenancé par l'attitude.
Non, en général, les changements fonctionnent souvent assez bien. Parce qu'il s'était passé à Rennes, hein, en restant dans un système que je pensais encore, parce qu'ils étaient en grosse difficulté à Rennes au championnat, parce que Traoré et Terrier avaient marqué.
Ouais, bien sûr.
Mais un joueur comme Terrier, il peut se poser des questions.
Alors, en dehors de cette élimination un peu claire et un peu sèche, eh bien, il y a eu ce psychodrame autour des dirigeants,
très clair et très sec,
qui ont eu l'air d'avoir été un peu pris de court. Ils avaient promis, hein, que l'avenir de Bruno Genesio serait déclaré à la fin du match. Ils n'imaginaient vraisemblablement pas perdre, c'est ça le fin mot de l'histoire, Hervé. Alors écoutons Jean-Michel Aulas et ensuite nous entendrons Bruno Genesio. D'abord le président du club.
J'avais rencontré Bruno pour préparer cette décision et on avait convenu que si nous allions en finale de la Coupe de France, ce qui n'est plus le cas, et si nous étions sur le podium, il y aurait une prolongation de contrat que nous avions discuté de 2 ans. Les résultats sont positifs. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de groupes de supporters qui avaient la sensation d'un certain nombre de choses différentes. Malheureusement, on n'ira pas à Paris en Coupe de France, donc il n'y aura pas de reconduction jusqu'à la fin de saison. On prendra une décision en fin de saison.
On prendra une décision en fin de saison. Bruno Genesio l'attend, mais lui aussi a rajouté son petit mot.
Je suis très, très, très déçu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il reste 8 matchs de championnat et que je vais tout donner pour amener l'équipe à la 2e place et pour laisser le club dans l'état que je l'ai trouvé, à savoir qualifié en Champions League. Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est pas mon cas personnel, c'est de qualifier le club de nouveau pour la Champions League pour l'année prochaine.
Alors Hervé, c'était un peu sur un ton d'enterrement, hein, toutes ces déclarations
c'est le mot
hier
qu'on puisse
soir.
Dire.
Vraiment, ils avaient des mines contrites tous les deux. Restera pas Genesio, qu'est-ce qui se joue là?
Ben, honnêtement, moi, je serais bien incapable aujourd'hui de dire si Genesio restera.
Vous aviez fait le pari qu'il restait 2 ans.
Ah, c'est pas un pari, non, ils avaient prévu de lui donner 2 ans. Maintenant, sauf cataclysme, et le cataclysme est arrivé parce que personne n'attendait cette défaite. Et là, d'un seul coup, tout le monde s'est retrouvé bloqué.
D'où cette communication de Lasse sur un match. Non, mais jouer l'avenir d'un entraîneur sur un match, quand même,
c'est
soit un génie de la communication,
mais c'est aussi la vie des entraîneurs, malheureusement. C'est la vie des entraîneurs dans des conditions particulières, ouais, dans un contexte spécial, parce que vous êtes à Lyon avec un public qui veut pas. Moi, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, si ça a un sentiment personnel, ça me paraît compliqué. Ça, parce que il y a un tel, ça veut dire que si vous repartez avec lui, ça va être encore le même truc. Et au bout de 2 matchs, si vous en parlez un, bon, vous avez dit qu'il fallait pas garder Genesio et tout. Mais maintenant, comme c'est Jean-Michel Aulas, qui est tout à fait capable, imaginons un Lyon qui gagne ses 4 prochains matchs, qui gagne à Marseille, qui gagne contre Lille, qui passe Lille pour la 2e place le soir de Lille, vous allez voir la com de Jean-Michel Aulas qui va vous expliquer. Alors, regardez comment Genesio a remonté l'équipe.
Ouais, voilà. Mais moi, au-delà de Genesio, pas Genesio, c'est une réflexion sportive qu'il faut avoir et pas prendre de réaction, pas prendre décision à chaud, ce qu'a fait Jean-Michel Aulas. De toute façon,
comme
c'est
somme
toute,
pas,
c'est somme toute logique soucis. Finalement qu'il décide en fin de saison. Il faut juste se poser les bonnes questions. L'aspect de la défiance. Est-ce qu'il est capable de faire progresser cette équipe? Est-ce qu'il est capable de faire progresser ces joueurs, parce que avec le matos qu'il a, alors toi tu estimes, Hervé, je suis en partie d'accord avec toi, toi tu trouves peut-être que certains sont surcotés. Moi je trouve que il y a quand même moyen de mieux faire avec cette équipe. Alors évidemment tu peux pas aller tutoyer le Paris Saint-Germain puisqu'ils font pas le même championnat, mais ça aurait été absolument pas un scandale que Lyon soit en chasse patate par exemple derrière le Paris Saint-Germain et le reste du championnat de France, parce qu'il y a quand même,
ils viennent de loin,
voilà, il y a comme, alors maintenant c'est soit on considère que c'est l'homme idoine, soit on change de logiciel. Soit on met de l'argent, on va chercher un nom. Donc ça veut dire, effectivement, peut-être que pour Aulas, c'est aussi peut-être lâcher un peu de lest. C'est aussi un changement peut-être culturel. Donc c'est beaucoup d'interrogations. Mais en même temps, on a affaire quand même, pour moi, au meilleur président du football français depuis 20 ou 30 ans. Donc on peut lui faire confiance pour trouver la solution adéquate. Jean-Michel Aulas.
Il brouille un peu les cartes quand même, le meilleur président, Étienne Moati.
Je ne sais pas s'il brouille les cartes, mais moi je pense aujourd'hui, un petit peu comme Hervé, que ça va être compliqué de maintenir Genesio et de le prolonger pour 2 ans supplémentaires, parce que ce sera compliqué malgré tout en
Genesio
fin de saison.
Genesio le dit, non? Quand d'expliquer... il dit « je vais laisser le club
sûr,
là où, il est, où je l'ai trouvé ».
Parfaitement raison de le relever, parce que dans la phrase de Genesio, il y avait déjà le renoncement, comme si déjà la décision, en tout cas pour lui, quasiment était prise de ne pas continuer. Et puis on peut soupçonner quand même, même dans le discours d'hier de Jean-Michel Aulas, il a quand même évoqué les deux conditions qui étaient réunies donc pour qu'il soit prolongé, c'était participer à la finale de la Coupe et être sur le podium. Il y en a une qui est déjà ratée, donc je pense qu'en fin de saison, et quand vous y ajoutez la défiance quand même persistante des supporters, que vous n'allez pas calmer en leur disant que le club est qualifié pour la Ligue des Champions, bon bah c'est aujourd'hui l'ordinaire de Lyon. Je pense que ça va être compliqué, et je pense qu'il va sans doute changer son fusil d'épaule.
Moi je comprends pas juste une chose par rapport à ces deux conditions. Jouer la Ligue des Champions, d'accord, oui, effectivement, c'est très très important.
Mais arriver là un peu par hasard.
Voilà,
si
en plus, mais dire jouer la finale, il faut jouer la finale de la Coupe de France, c'est un objectif, mais c'est quoi comme objectif? Gagner la finale de la Coupe de France, peut-être c'est un objectif, aller en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais quelle est la différence entre la demi-finale et la finale?
Si vous y affrontez le Paris Saint-Germain, forcément, vous ne pouvez pas réclamer donc comme condition à vos joueurs de gagner.
Ça change quoi? Jouer le sort d'un entraîneur sur une demi ou une finale de Coupe de France, pour moi, c'est un faux objectif. C'est un faux objectif.
Ce qui est très drôle dans l'affaire, c'est d'arriver en conf de presse qui est prévue, où tout est déjà scellé, et surtout expliquer, il y a deux objectifs, donc la Coupe de France, évidemment, et l'une des trois premières places. Donc, en gros, vous dites, eh ben, de toute façon, on n'allait rien décider ce soir.
Bah, oui, parce que si
les trois premières places, on ne peut pas le savoir hier soir. Ouais. Donc, il faut attendre un mois. Donc, vous pouvez faire une conf pour dire, eh ben, je vous dirai dans un mois si on décide ou pas. Le plus simple aurait été de gérer ça avec Genesio. Lui, il voulait le prolonger. Maintenant, il se rend bien compte qu'il y a une défiance importante, et c'est là, à un moment, vous pouvez pas aller non plus contre les intérêts de votre club.
Il y a
club.
Des résultats, pour le coup, qui sont menti, quand même.
Beaucoup de résultats décevants.
Oui, bien sûr. Ah, bah, s'ils étaient deuxième.
Hier, c'est un échec, concrètement.
Ah, c'est un gros échec.
Donc, voilà.
On y reviendra, donc on suivra avec attention ce que décidera monsieur Jean-Michel Aulas.
La meilleure Liga del Mundo.
Leo Messi, encarando la portería del Levante para cruzar ese balón y marcar el segundo para el Barça. Gol, 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 gol.
Et oui, bien sûr, il a marqué Messi dans un match de dingue du côté de Villarreal dans le stade de la Ceramica. Pour la 30e journée, le Submarino Amarillo, comme on dit, le sous-marin jaune, recevait le Barça, le premier face au 17e. Et pourtant, les Catalans ont bien failli perdre, sauvés par Messi et Suarez. Mais en face, deux Africains, alors dont vous avez le privilège de savoir prononcer. Alors, le lion indomptable, Karl Toko Ekambi. Voilà, ça vous savez prononcer moi aussi, parce qu'il était pris Marvi Dienfoé l'année dernière. Il a marqué. Mais l'autre, ce Nigérian, Eric Mamrut, qui est-il, d'où vient-il?
Samuel Chukwueze.
Chukwueze. Non, mais moi je l'ai dit en français.
Voilà. Bon, il a 19 ans et il a grandi en termes de football à la Diamond Football Academy. Ça se situe à Umuahia, dans le sud du Nigeria. Et il a brillé avec les sélections de jeunes avec le Nigeria, et il a remporté le mondial des moins de 17 ans. En 2015, il s'y était illustré avec 3 buts et 3 passes décisives. Et du coup, eh bien, Villarreal lui a fait signer un contrat de 5 ans. Il a fait ses débuts avec l'équipe pro en septembre dernier. C'était en Europa League, puis en Liga en novembre. Résultat, 19 apparitions avec une moyenne de 42 minutes jouées par match. Et à l'arrivée, pour ce petit joueur, ce petit ailier d'1m72, 4 buts, 2 passes décisives. Et puis, chez lui, on l'a repéré au pays au Nigeria. On vient de l'élire meilleur jeune joueur nigérian de l'année.
30 secondes, Hervé.
Oui, moi, je l'ai vu avec les moins de 17 ans du Nigeria. Joueur très vif, virevoltant, capable d'éliminer. Il va très vite. Mais bon, maintenant, il va falloir qu'il fasse sa carrière, à lui de montrer qu'il pourrait être l'égal de ses grands devanciers, parce que du côté du Nigeria, il y a du monde.
Mm-hmm. Nabil.
Il y a du monde, et notamment un autre phénomène qui fait partie de cette génération, qui a été appelé par Gerd Mantor, qui s'appelle Victor Osimhen. Un nom que je vous conseille de retenir, parce que je pense qu'il risque...
C'est le meilleur buteur de ce mondial.
Ouais, et je pense qu'il risque, alors, petite indiscrétion, il risque de débarquer la saison prochaine, peut-être en Liga, pas très loin de Villarreal.
Bon, mais en tout cas, c'est vrai que ces joueurs, hier, ont réussi à tenir Barça.
Dans l'équipe d'en face, il y avait un joueur que je ne sais pas si vous l'avez repéré, Lionel Messi.
C'est qui?
Pas mal. Il ne faille pas quand même qui confirme, mais c'est pas mal quand même.
Et un Samuel Umtiti un petit peu à côté de ses chaussettes.
Et d'ailleurs, les Barcelonais ont battu les Lyonnais en Youth League avec un jeune qui s'appelle Fatih, apparemment de Guinée-Bissau, qui m'a rappelé, comme deux gouttes d'eau, Dembélé. Attention, un joueur à suivre. Ousmane Dembélé. Ouais. Le jeune Fatih.
En tout cas, on continuera peut-être à suivre le Villarreal en Liga l'année prochaine, parce que du coup, ils sont devenus 17e et peut-être ont-ils sauvé leur saison. Mais évidemment, on n'en est qu'à la 31e journée et ce n'est pas fini. Le Barça reste devant. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci à David Finzel, à Laurent Salerno, et à demain.